Donc encore une fois, Michel Reynal, donc mon collègue, est ici et pourra participer à la réunion et nous avons préparé cet exposé ensemble. Alors je vais prendre un point de vue, donc ça c'est le plan que je vais suivre. Je vais prendre un point de vue qui est un tout petit peu différent du point de vue qui a été présenté par exemple hier pour l'optimisation des ressources en général. L'informatique est utilisée comme un outil pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'optimisation de ressources. Nous, on va considérer des ressources intrinsèques à l'informatique. Alors, l'objet de base de notre discipline, en fait, c'est la notion d'information, qui est quelque chose de très hétérogène, multiforme. On considère que ça, ce sont les données d'une sorte de fonction qu'il faudra calculer, et en quelque sorte, pour faire un peu une analogie avec les physiciens, c'est une autre matière. Et cette information, elle est produite, on la collecte, on la transporte, etc. Elle se transforme, et pour pouvoir la manipuler, le concept de base qu'on utilise, c'est les algorithmes. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors évidemment, ce n'est pas toute l'informatique. L'informatique est quelque chose de très large. Vous avez également des questions subtiles et très intéressantes au niveau des langages, au niveau de l'architecture des ordinateurs, etc. Donc, ce ne sera pas abordé dans cet exposé. Voilà. Alors, ce que la dernière petite phrase un peu provocatrice dit, c'est que quelque part, l'informatique, quand même, au fil des années, s'est constituée un peu en science, où, en d'autres termes, on a construit des outils pour pouvoir manipuler un peu tout ça. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le point de vue qu'on va prendre ici, c'est le point de vue de l'algorithmique, et on va s'intéresser à la ressource temps, mais intrinsèque, et à la ressource de mémoire, c'est-à-dire on va essayer d'optimiser le temps des algorithmes et les ressources mémoire utilisées par ces algorithmes, donc encore une fois, qui sont vus comme des fonctions qui transforment une entrée en une sortie qui correspond à une question qu'on s'est posée, un problème qu'on veut résoudre. Donc, il y a trois volets dans la présentation. Je vais faire quelque chose de très standard, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez un peu le contexte. Le calcul séquentiel, c'est les ordinateurs que vous manipulez tous les jours, ou votre iPhone, ou tout ce que vous voulez, les petits devices électroniques. Et il y a beaucoup d'articles dans la presse de la vulgarisation sur ces choses-là, donc je vais quand même prendre le temps de représenter un peu tout ça de manière à focaliser sur des questions qui nous semblent importantes, sur le calcul à la fois parallèle et distribué. Donc moi, je suis plutôt un spécialiste de parallélisme, et mon collègue et ami Michel Reynal, plutôt un spécialiste de distribué. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle de calcul standard ? Bon, ça c'est un premier slide de présentation. En fait, avant de résoudre un problème, en fait, les données donc, qui sont encore une fois de l'information, il faut pouvoir les coder dans un encodage qui est un peu universel et qui peut être reconnu en fait par une machine, par une sorte d'automate que je vais spécifier tout de suite. Et on prend pour cela un alphabet. Ça peut être quelque chose de très compliqué, mais disons qu'au niveau le plus simple, c'est le binaire 0-1. Et là-dessus, on ne va pas s'intéresser à des questions de le meilleur codage possible, etc. On va considérer que tous les codages raisonnables sont équivalents. Et bon, par exemple, je vous ai donné un exemple d'un codage qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, si vous voulez coder un entier, bon, assez long, c'est 32 bits. Si vous vouliez le coder bit par bit, par exemple, 1380 par tous les bits comme ça, ce ne serait pas raisonnable. D'accord. Bon, c'est une notion qui est un petit peu vague pour l'instant, mais enfin, on n'a pas besoin dans cet exposé de détailler un petit peu plus cette chose-là. Donc j'ai des informations qui sont des entrées d'une sorte de machine universelle et représentées à partir d'un alphabet qui est interprétable par cet automate. Alors c'est ça donc l'automate de calcul. Donc là, vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est une machine qui est due au grand mathématicien anglais Alan Turing, qui est quelque chose qui est sorti en fait de son esprit bien avant l'avènement de l'informatique, en 1900, autour des années 34-35. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une mécanique en fait, avec un ruban infini que vous avez représenté ici. Hein, c'est un ruban infini. J'ai mis trois petits points pour montrer que c'était aussi grand qu'on voulait à gauche et à droite. Et il y a là-dedans des cases élémentaires qui contiennent un symbole de l'alphabet de base, donc 0-1. Et là, vous avez, représenté par la flèche verticale, une tête de lecture. Et au départ, dans un état initial, la machine, je vais appeler ça une machine, représente donc un mot d'entrée, c'est-à-dire le codage de vos informations dont vous disposez. Voilà, c'est en bleu sur le schéma. Donc vous avez là-dessus, pour évoluer, une sorte de fonction de transition pour passer d'un état à un autre état. Et le nombre d'états, il n'y en a pas forcément beaucoup, il y a un nombre fini d'états. Qu'est-ce que peut faire la tête de lecture ? Donc simplement, mécaniquement, elle se déplace vers la gauche, vers la droite, elle reste stationnaire. Et ce que vous pouvez faire, c'est lire ce qu'il y a sous la tête de lecture, éventuellement effacer un caractère et en remettre un de l'alphabet, etc. C'est tout. Et là-dedans, je distingue un ou des états spécifiques qui sont des états accepteurs, c'est-à-dire dans lesquels la machine pourra terminer. Donc si je tombe sur un état comme ça, j'arrête le traitement mécanique de la machine de Turing. Voilà, c'est tout. Alors cette chose-là, en fait, a été montrée dans la thèse de Church-Turing, donc c'est une thèse au sens vrai du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve mathématique pour ça, mais que tout algorithme, c'est-à-dire tout problème ayant une solution sous forme de ce qu'on appelle une procédure effective, sous forme algorithmique, peut être résolu par une telle machine. Donc, en d'autres termes, les machines sont, séquentielles classiques sont toutes équivalentes à un codage près, etc. Ça, c'est la base. Alors, je vais prendre deux exemples de problèmes qui peuvent être résolus sur ces machines-là. Le tri de n éléments, qui est un problème fondamental très, très classique en informatique. Donc là, je calcule l'efficacité de mon algorithme en termes de nombre de comparaisons que je dois faire entre les entiers. Et je sais que j'ai des analyses mathématiques qui me disent que ce n'est pas possible de faire ça en temps linéaire. Enfin, il faut au moins n log n comparaison-échange pour faire cette chose-là. Et on a réussi à trouver des algorithmes qui ont ce temps-là sur les machines de Turing. Donc, de ce point de vue-là, ces algorithmes-là seront optimaux. Je vais donner un autre problème, qui est le problème du rangement. Donc, c'est des problèmes qui interviennent, par exemple, dans les découpes. C'est des problèmes industriels très, très connus, ou des problèmes de logistique aussi, quand vous voulez remplir un entrepôt. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le bin packing en anglais. Et le problème consiste informellement à avoir un certain nombre de bins en vert ici, alors d'objets en vert. Donc là, l'objet sont représentés par leur hauteur, et je dois les rentrer dans des caisses, dans des consignes de gare, par exemple, typiquement. Donc ce problème-là, le problème de bin packing, c'est d'utiliser avec tous vos bagages le nombre minimum de consignes possibles. Alors ce problème-là, en fait, d'un point de vue un peu plus formalisé, il a une entrée qui est n. Enfin, c'est n entiers, et la taille des bins, ça, c'est mon mot d'entrée de tout à l'heure, ils sont codés avec un codage raisonnable. Et la question, c'est déterminer le nombre minimum de bins pour placer tous les entiers, avec la contrainte que deux entiers ne peuvent pas se chevaucher. Sous forme de décision, c'est sous cette forme-là que je vais analyser les problèmes, je demande une réponse par oui ou par non, ça revient simplement, tout bêtement, à rajouter un entier, qui est un sort de seuil, et de changer légèrement la question, pour avoir une réponse oui ou non, c'est-à-dire est-il possible de placer n entier dans moins de grand n bin, n étant fixé. En fait, ces deux problèmes sont équivalents, mais c'est de cette manière-là, c'est sous la forme de problème de décision que je vais envisager la résolution de ces problèmes. Alors ce problème-là, pourquoi il est intéressant par rapport au tri, c'est que personne n'a trouvé à l'heure actuelle d'algorithme efficace pour résoudre ce problème. Et le mieux qu'on sache faire, c'est d'essayer toutes les possibilités de manière exhaustive. On peut être plus malin ou pas là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut avoir une énumération un peu intelligente des choses, mais de toute façon, il faudra, sur certaines instances, passer toutes les cas en figure et prendre la meilleure possible suivant une mesure, ici, le nombre de bins nécessaires dans la solution. Alors, en d'autres termes, ça c'est juste un petit slide qui vous dit qu'il y a quand même des algorithmes, c'est-à-dire des procédures effectives, qui, même si elles ne conduisent pas au nombre optimal de bins, de boîtes de rangement, peuvent être quand même considérés comme étant corrects. Par contre, ce problème n'est pas approximable non plus, c'est-à-dire que je ne pourrais pas trouver par un algorithme qui est rapide une solution en moins de 3 demi du nombre optimal de bins. Je reviendrai sur cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité ? Donc là, je vous ai présenté la mécanique de la machine de Turing, je vous ai présenté des problèmes. Maintenant, je fais le lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est que la complexité en temps, c'est-à-dire là, je m'attaque à la ressource temps. Donc la complexité en temps sur la machine de Turing, c'est simplement le nombre de transitions que je ferai dans mon automate d'état fini avant d'obtenir un état accepteur, c'est-à-dire il est donné en rouge ici. Donc là, je vous ai représenté les états du ruban infini, d'accord ? Et vous voyez l'état de la tête de lecture qui part du premier caractère du mot d'entrée et qui se déplace. Alors là, je l'ai fait déplacer un peu sur la droite, puis etc. Mais il peut se déplacer n'importe où. La complexité en temps est définie formellement comme étant le nombre de transitions que fait une machine de Turing avec un codage raisonnable, etc. Alors évidemment, je n'aurai pas une complexité claire à la fin, j'aurai une complexité à un polynôme près, puisque si je change le codage, je peux avoir un temps qui est légèrement plus grand, ou, etc. Peu importe, je définis cette notion de complexité en temps à un polynôme près. Alors ça, c'est ce qui se passe sur une machine de Turing déterministe, c'est-à-dire où la fonction de transition est très simple, c'est-à-dire qu'à partir d'un état et d'un symbole donné sur la tête de lecture, je détermine de manière unique un seul état. Alors, juste une petite parenthèse aussi. Donc ça, c'était la complexité en temps. La complexité en espace, ce sera défini de la même manière comme étant le nombre de cases visitées pendant tout le temps où la machine a marché jusqu'à l'obtention de l'état accepteur. Ici, c'est le nombre de cases visitées. Donc c'est marqué en bas de la diapo. Alors qu'est-ce qui se passe sur... Donc, j'ai deux versions de la machine de Turing. J'ai une version, encore une fois, où j'ai une fonction qui a un seul, à partir d'un état, donne un seul état. Mais j'ai aussi les machines qui sont dites non déterministes, au sens où, en fait, la transition n'est plus une fonction, au sens mathématique du terme, c'est une table de transition, c'est-à-dire à partir d'un état et d'un caractère sur le ruban, je détermine plusieurs états possibles. Là, je vous ai donné, à partir d'un état de la machine de Turing, plusieurs transitions possibles. Vous avez la première transition qui conduit à l'arbre de gauche, ici. Et puis, si on suit la toute première flèche, la toute première transition, on conduit sur un état où ma machine dit non à la fin. Donc, on a un état accepteur, mais enfin, on a une décision, c'est non. Si on prend la deuxième, ici, branche, on peut aller très, 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 très loin sans avoir de solution. Donc je ne sais pas s'il en existe une ou s'il n'en existe pas, mais il y a un point d'interrogation. Il faudrait tellement de temps pour la parcourir que, bon, je ne sais pas. Donc j'ai mis un point d'interrogation. La deuxième transition, par contre, conduit à un état oui, ici. Et vous voyez qu'il y a un autre état oui qui peut être atteint. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je n'ai représenté qu'un faible nombre d'états ici. J'obtiens plein de oui là-dedans. Et la complexité en temps sur une machine de Turing non déterministe est déterminée comme le nombre minimum de transitions qu'il faut sur une machine de Turing non déterministe. Donc là, vous regardez toutes les transitions qui terminent sur oui, en temps raisonnable. Il y en a peut-être d'autres, mais qui sont très, très, très loin. Et à ce moment-là, vous prenez la plus petite transition possible. C'est ça qui définit ma complexité en temps. D'accord ? C'est un petit peu plus compliqué. Et c'est parfaitement non déterministe. Alors là, donc ça, c'est le fonctionnement de la machine de Turing quand elle est amenée à résoudre des problèmes. Donc, résoudre des problèmes, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un certain espace mémoire et ça va conduire à un certain temps. Et maintenant, donc, je définis les classes de complexité, c'est-à-dire c'est une sorte de classification des problèmes par leur niveau de difficulté à être résolu via une machine de Turing. Alors, vous avez, ça c'est aussi des choses qui sont très connues, vous avez la distinction entre le fameux ensemble, c'est une classe en fait de complexité P et NP. Donc, le premier problème, le tri, c'est un algorithme, encore une fois, qui était polynomial, puisque je vous ai donné une solution du tri en n log n. Donc, c'est plus petit que n au carré. C'est quelque chose qui est borné par un polynôme. Donc, c'est quelque chose qui est polynomial sur une machine de Turing déterministe. Donc, ce sont les problèmes que nous, on appelle faciles. Bien que, parfois, ça soit, vous demandez aux étudiants, un peu difficile pour eux de trouver une solution. Enfin, on appelle ça des problèmes faciles ou efficaces. Et vous avez les problèmes comme le bin packing, pour lesquels on n'a pas d'autre solution que de regarder toutes les configurations possibles. Évidemment, quand l'instance est grande, quand le nombre d'objets est grand, comme c'est une fonction qui est exponentielle, l'énumération exhaustive est exponentielle, ça peut être très, 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 très long. Par contre, ce que vous savez pour ce genre de problème, c'est que si vous aviez une solution, vous pouvez vérifier qu'elle est correcte en temps polynomial. C'est une des définitions de NP. Mais par contre, vous ne savez pas la produire en temps polynomial, en temps efficace. Et vous ne savez même pas si c'est possible ou non, puisque une des grandes questions d'informatique théorique à l'heure actuelle, c'est de déterminer est-ce que la classe P est différente de la classe NP, hein, ce qui n'est pas sûr. Donc, voilà, donc le bin packing fait partie dans la classe NP des problèmes les plus durs. On appelle ça des problèmes qui sont complets pour cette classe-là vis-à-vis d'un opérateur de réduction que je ne détaillerai pas ici, qui est une sorte de relation d'ordre entre les problèmes. Alors là, je vais faire des choses un petit peu plus moins classiques. Donc, je vais regarder ce qui se passe dans NP et dans P. parce que ça va m'éclairer justement les choses sur le, ce que je voudrais raconter sur le parallélisme. Alors, la classe à l'intérieur de NP complet, il y a beaucoup de problèmes. Donc là, vous avez possibilité de raffiner cet ensemble NP complet en rajoutant une structure, une sorte de hiérarchie de problèmes, avec des problèmes. Alors là, je vous ai mis un peu des gros mots, bon, FPTAS, PITAS, APX, bon, peu importe. C'est des classes de complexité qui s'emboîtent, vous voyez qu'elles sont incluses les unes dans les autres, hein, c'est une notation ensembliste, qui montre que la plus petite classe peut être aussi près que vous voulez d'une solution polynomiale. D'accord ? Prenez un epsilon, aussi petit que vous voulez, vous pouvez être à 1 plus epsilon de l'optimal, mais par contre, il faudra un temps en grand O de n puissance moins epsilon. Donc vous voyez, plus epsilon est petit, et plus le temps pour y arriver sera important. Donc je n'ai pas de contradiction avec le fait qu'il faut un temps très très long pour obtenir ces solutions dans ces problèmes-là. PITAS, c'est un petit peu plus gros, bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est des variantes, et puis APX, c'est encore plus gros, etc. Donc là, j'ai une possibilité de raffiner les problèmes dans NP complet pour déterminer si un problème, quelque part, est plus facile que l'autre au sens de cette capacité à être approximer l'optimal. Et je peux faire la même chose. Alors là, je voulais quand même signaler, parce que c'est quand même le thème de ce colloque, c'est le thème des ressources. Je vais m'aventurer sur la ressource un peu espace, parce qu'il y a quelque chose au-delà de NP, chose que vous ne savez pas forcément. En particulier, il y a une classe qui est au-dessus, qui s'appelle P-Space. Alors, P-Space, en français, enfin, en général, on utilise les acronymes anglais. Donc, en fait, P-Space, c'est quoi ? C'est les problèmes qui requièrent un temps polynomial en espace, un espace polynomial sur une machine de Turing non déterministe. Donc, c'est beaucoup plus gros que NP. Typiquement, vous avez le problème de jeu d'échecs. Si je vous donne une configuration d'un jeu d'échecs avec une configuration au milieu du jeu, et je vous dis maintenant, la question c'est, est-ce que cette configuration a un trait gagnant ? Alors, c'est un problème dans P-Space. Bon, j'ai été si lent. Et juste au-delà, il y a encore des problèmes qui sont des problèmes donc indécidables, c'est-à-dire, il n'y a même pas de solution sous forme, il y a quelques instances qui n'ont pas de solution sous forme algorithmique. D'accord ? Bon, alors je ne sais pas si je peux... je voulais aller dans l'autre sens quand même, c'est-à-dire faire un peu une symétrie. Dans la classe P, qui sont les problèmes faciles, on peut aussi la raffiner. Raffiner en redonnant une hiérarchie de cette classe polynomiale. Et à ce moment-là, de la même manière que dans P-Space, je vais classifier les problèmes par leur espace polylogarithmique, c'est-à-dire l'espace qu'un algorithme requiert pour son exécution sur une machine de Turing non déterministe. Donc typiquement log n, log carré n, log cube n, etc. Et je vais classifier les problèmes là-dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que ces classes-là dans P correspondent aux classes de complexité parallèle. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on duplique les ressources pour obtenir des machines qui ne sont pas des machines qui sont pas aussi simples que les machines de Turing, on obtient la même hiérarchie que dans cette classe polylogarithmique. Et l'espace dans cette classe P correspond au temps de résolution parallèle. Mais je ne crois pas que j'ai tellement de temps. C'était ce que je voulais dire ici. La question qui est dure dans le parallélisme, c'est qu'on n'a pas, comme une machine de Turing, un modèle universel d'exécution. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle unique qui représenterait toutes les machines parallèles possibles. Donc à ce moment-là, à chaque fois que vous avez une machine, quelque part en caricaturant, vous avez un nouveau modèle de parallélisme, ce qui est un petit peu compliqué. Par contre, on a des modèles de base qui peuvent correspondre à des modèles élémentaires, qui sont le modèle des PRAM et le modèle des circuits booléens. Et c'est dans ce modèle des circuits booléens que vous pouvez montrer la thèse du calcul parallèle. Je terminerai peut-être là-dessus si le temps est compté. C'est-à-dire que c'est une thèse au même sens de la thèse de Church-Turing, c'est-à-dire que les problèmes qui sont résolvables efficacement en parallèle sont des problèmes d'abord de la classe P, ce ne sont pas des problèmes de... On ne pourra pas casser les problèmes de la classe NP avec le parallélisme en dupliquant les ressources, hein, la structure fondamentale du calcul reste la même. Par contre, vous pouvez avoir la même hiérarchie que dans P, et l'espace utilisé dans une machine de Turing correspond au meilleur temps que vous pouvez obtenir sur un modèle de type Borodine en complexité parallèle de circuits booléens arithmétiques. Bon, voilà, je chante la partie de Michel, désolé.
Merci beaucoup. Nous avons... Je ne sais pas si vous voulez... Nous avons un problème qui me semble être un problème de bin packing.
Voilà. Juste là, je vous mets un petit film qui dure une minute, qui est une machine de Turing en Lego. Mais on peut continuer les questions en parallèle. Donc c'est quelqu'un qui a réalisé une machine de Turing en Lego pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose d'élémentaire et de très simple. Et comment on montre comment on... Je vous la repasserai si vous voulez.